Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Sauver le climat. Les représentants de 200 pays travaillent à Madrid dans le cadre de la conférence de l'ONU, la fameuse COP25. Et ils seront rejoints cette semaine par Greta Thunberg. La jeune militante écologiste a débarqué au Portugal hier après avoir traversé l'Atlantique en voilier depuis l'Amérique où elle se trouvait. Son message, c'est aussi celui-là. Voyager en avion, ce n'est pas bon pour la planète. D'ailleurs, dans son pays en Suède, on a inventé un mot pour traduire cette nouvelle culpabilité, le flockscam, la honte de prendre l'avion littéralement. C'est bien sûr notre chronique en un mot cette semaine avec notre correspondante Anne-Françoise Hiver.
C'est un mot qui s'écrit flixcam avec un Y, mais se prononce flugscam. Flug, du verbe fluga, voler en suédois. Scam, la honte, littéralement donc la honte de voler. Spécialiste du tourisme, le professeur Stéphane Yesling tente une définition.
Flugscam ne veut pas dire grand-chose de plus qu'avoir un mauvais sentiment quand on prend l'avion, peu importe comme on le définit. On ne va pas très bien car on est conscient de l'impact du vol sur le climat et on n'est pas complètement convaincu du fait que ce soit une bonne idée de prendre l'avion, même si on pense qu'on a le droit de le faire. Ça peut vouloir aussi dire qu'on décide d'arrêter de prendre l'avion à cause des sentiments générés par la flugscam.
Pour certains, cette honte est bien réelle.
Oui, on ressent un peu de flugscam. Alors on prend le train, mais ce n'est pas un problème. Le train, c'est fantastique.
Pour d'autres, comme Albin, par contre, aucune honte.
Non, je ne ressens aucune flugscam. Je prends l'avion. Bien sûr, j'y pense, mais il y a des plus gros pollueurs que l'avion.
Et puis, il y a celles comme ces lycéennes qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Flugscam, vous savez ce que c'est ? Non ? Vous n'en avez jamais entendu parler ? Pas du tout ?
Non, notre bus arrive.
Ok, merci beaucoup. Pourtant, le terme est entré officiellement dans la liste des nouveaux mots de la langue suédoise établie chaque année par le Conseil de la langue en 2018, ce qui ne surprend pas cette jeune maman, Sofia, qui prépare une thèse en économie du sport et se promène avec son fils dans la poussette.
C'est typiquement suédois, je pense. Si je comprends bien, c'est surtout en Suède qu'on en parle. Peut-être pas vraiment ailleurs, je ne sais pas vraiment. Peut-être parce que nous en sommes assez conscients. On trie nos déchets, on fait du vélo, on achète d'occasion, on mange bio. Je pense que beaucoup le font. Oui, on est très conscient de l'environnement, ce qui est peut-être aussi plus facile quand on vit dans un pays qui va bien.
Qui a inventé le mot flugscam ? Les opinions varient. La chercheuse Kimberly Niklas, spécialiste du développement durable, a une explication.
On a retrouvé la première trace de flugscam en novembre 2017 dans un dessin publié par une ONG, l'Organisation des consommateurs suédois. C'était un dessin sur Twitter qui disait en gros « En 2017, c'est super cool de prendre l'avion pour se rendre dans une destination tropicale, de prendre une photo avec vos amis pour la poster sur les réseaux sociaux. 10 ans plus tard, en 2027, le dessin dit « S'il te plaît, ne donne pas mon nom, je n'ai pas envie que les gens sachent que j'étais là, en gros. » C'est l'origine de flugscam, dans un contexte qui prédisait déjà la tendance que nous observons actuellement, avec des gens qui sont de plus en plus conscients de l'impact climatique des vols et ne veulent pas être vus comme personnes qui voyagent en avion et consomment plus que leur part du budget carbone.
Mais plus que d'une humiliation causée par les réactions des autres, elle évoque une culpabilité qui vient de l'intérieur, de soi-même.
Il y a eu des exemples où des gens ont été mis en cause, pointés du doigt ou critiqués parce qu'ils volaient. Mais je pense que c'est assez rare. Il y a actuellement un mouvement grandissant de gens qui s'engagent à ne plus prendre l'avion en Suède. Or, ce n'est vraiment pas une stratégie qu'ils ont adoptée. Ils préfèrent montrer l'exemple, mettre en place des campagnes pour inciter les gens à rester sur Terre pendant un an, œuvrer à l'aide d'un leadership positif plutôt qu'en critiquant les autres.
Et ce mouvement a déjà des conséquences. Les Suédois plébiscitent le train au point de délaisser l'avion sur les vols intérieurs. Résultat, le trafic aérien est en baisse pour la première fois depuis des années en Suède, à tel point que plusieurs compagnies ont annoncé la suppression de lignes qui ne sont plus rentables. Chez les voyagistes, l'impact est notable, comme ici à Lund, dans le sud du pays.
Beaucoup posent des questions sur la compensation des émissions, si nous avons des destinations plus écologiques et comment nous envisageons l'avenir. Cela a beaucoup augmenté ces deux dernières années.
En juin dernier, le président de l'Association internationale du transport aérien, Alexandre de Juniac, a bien été obligé de le reconnaître. Ce petit mot venu de Suède, Fluxcam, met le secteur sous une pression considérable. Le fait que la jeune activiste suédoise Greta Thunberg en soit une porte-parole n'arrange pas les choses pour l'aviation. Au total, ils sont 10 000 pour le moment en Suède à avoir pris formellement l'engagement de ne pas quitter le sol en 2020. L'objectif désormais que 100 000 s'engagent d'ici la fin de l'année.
Les élections au Royaume-Uni se tiennent dans 8 jours. Un scrutin dont l'enjeu n'est pas seulement le renouvellement de la Chambre des communes, on l'a compris, mais bien sûr le Brexit. Et en Écosse, les électeurs devront se prononcer aussi en fonction d'un autre débat, et pas des moindres, la question de l'indépendance. Faut-il quitter le Royaume-Uni pour rester dans l'Europe ? Faut-il quitter les deux ou personne ? Un vrai casse-tête pour les partis et les électeurs. Reportage en Écosse, signé Marie Billon.
C'est ici que Stuart vient se ressourcer quand il a passé une journée difficile en haut de la montagne qui surplombe sa ferme à Claditch, sur la côte ouest de l'Écosse. Et des journées difficiles, il en a connu un peu trop à son goût depuis le référendum de 2016 sur le Brexit.
Ceux qui achètent nos vaches sont des passionnés, ils les élèvent pour le plaisir, c'est leur hobby. Ils sont surtout basés en Italie, en Allemagne, en Finlande et en France. Donc j'ai peur qu'avec le Brexit, les acheteurs ne soient plus intéressés à cause des potentiels droits de douane qui pourraient être imposés. Ou alors qu'on ne puisse plus exporter les bêtes à cause des conditions sanitaires à remplir. Ça nous inquiète vraiment beaucoup, parce que c'est notre marché principal.
Ce jeune fermier ne pensait pas que la politique aurait un tel impact sur son quotidien.
Au début, je voulais qu'on reste un seul pays, uni. Mais avec ce qui se passe avec le Brexit, on aurait peut-être mieux fait de partir de notre côté.
Stuart a voté contre le Brexit en 2016 et en 2014, il avait voté contre l'indépendance de l'Écosse. Mais il a changé d'avis et il n'est pas le seul. Il y a 5 ans, le no à l'indépendance l'avait emporté à 55% selon les derniers sondages. Le yes est passé en tête en août dernier avec 3 points d'avance au moment où Boris Johnson est devenu Premier ministre en promettant de faire le Brexit d'ici au 31 octobre. Promesse qu'il n'a pas tenue, au grand soulagement de la plupart des Écossais puisqu'en 2016, ils avaient voté à 62% contre le Brexit.
And it is an absolute honor now to be able to introduce our star speaker for today.
Résultat, à Glasgow, ce jour-là, la campagne pour l'élection du 12 décembre bat son plein. En novembre, la première ministre écossaise et chef du Parti national écossais, Nicola Sturgeon, avait fait le déplacement.
Alors que je me prépare à vous mener à un second référendum l'année prochaine, voilà ce que je vous demande, que tous vous persuadiez vos familles, vos amis, vos collègues d'envoyer le plus retentissant des messages à Westminster. Il est temps que l'Écosse devienne un pays indépendant.
Let's win our independence. Let's win the Scotland we want to see. Thank you.
En fait, il y a 2 campagnes en cours, celle des élections, mais aussi celle pour un second référendum sur l'indépendance. L'idée, c'est que si le SNP l'emporte, le parti indépendantiste pourra réorganiser un référendum d'autodétermination. Ce meeting était organisé par le quotidien pro-indépendance The National. Ses bureaux sont à quelques centaines de mètres de là.
Callum Baird, editor of The National.
Callum Baird est le rédacteur en chef de ce journal, né le 24 novembre 2014, un mois après le référendum écossais. Son but est d'alimenter les volontés d'indépendance.
On a toujours été en campagne. Chaque mois, on publie un supplément et nous encourageons nos lecteurs à le donner à ceux qui ne nous lisent pas pour les convaincre des bienfaits de l'indépendance. On fait des roadshows, on va de ville en ville pour parler d'indépendance. On aide nos lecteurs à organiser des événements. Nous sommes un journal engagé.
Et The National est dans l'air du temps. La campagne pour l'indépendance a clairement commencé. À 1 heure de Glasgow, à Dumfries, Waterline, une centaine de militants du Parti national écossais pro-indépendance dédient leur samedi à un apprentissage, comment devenir un militant efficace.
Je suis Derek Glenn, je suis le responsable de la branche locale du SNP et membre de l'organisation de cette session de campagne efficace.
Pour qu'il y ait référendum, le gouvernement central, Londres, doit donner son accord. Nicola Sturgeon, première ministre d'Écosse, a déjà dit qu'elle n'organiserait pas un référendum illégal comme en Catalogne. Alors les militants de Dunfermline ne dégainent-ils pas un peu trop vite? La réponse de Derek.
Pas du tout. Certains diraient même qu'on a 300 ans de retard. C'est vrai que nous n'avons pas de date pour le scrutin, mais ça ne change rien au fait que l'Écosse est dans une situation intolérable. Le Brexit braque les projecteurs sur la manière dont Westminster traite l'Écosse. Nous devons nous assurer que, quand la question sera à nouveau posée, le yes l'emporte.
Si le Brexit est le catalyseur des volontés d'indépendance, il ne faut pas oublier que beaucoup de pro-indépendance sont aussi des pro-Brexit. C'est le cas de nombreux pêcheurs, par exemple à Aberdeen, sur la côte est de l'Écosse. Et dans la ville de Granite, beaucoup sont de leur avis.
Je suis pro-indépendance, mais je ne voterai pas en faveur de l'indépendance si ça veut dire retourner dans l'Union européenne. Je veux sortir de l'Union européenne plus que tout.
Indépendance signifie indépendance. Pourquoi se débarrasser d'un carcan pour un autre, hors de l'Union européenne, hors du Royaume-Uni?
Les positions sont donc complexes et multiples à Aberdeen, comme ailleurs. Pourtant, si le Parti national écossais, le SNP, remporte une majorité en Écosse le 12 décembre, le gouvernement d'Édimbourg a déjà dit qu'il interpréterait ça comme un signe de soutien à un second référendum.
$1,229,000 prisonniers en Europe et un constat, les détenus qui ont travaillé ou se sont formés en prison ont deux fois moins de risques de récidiver. La réinsertion, c'est un sujet que maîtrise très bien une structure du nord de la France. La ferme de Moyen-Brie dans l'Aisne accueille depuis 20 ans des prisonniers en fin de peine et les forme au métier de la terre avec un taux de réussite de 60 à 70%. Lise Verbeck est allée les rencontrer.
Donc là, c'est quoi le travail de ce matin?
Le matin, on a fait les poireaux pour donner aux AMAP. Et là, on attaque les carottes.
Ok. Voilà. Dans les premiers frimas de novembre, sous un timide soleil, l'équipe maraîchage s'active.
Hé, hey, Roger,
ouais, il est arrivé, il m'a senti, il est reparti.
Les cultures sont bio et tout est récolté à la main, carotte après carotte. Elles sont vendues en panier pour un réseau de vente directe aux particuliers.
Il y en a encore une là-bas.
Sinon tu la prends avec toi puis tu remets une vis, c'est vite fait. Hein.
Ouais. Les résidents, des détenus en fin de peine, ont tous signé un contrat de réinsertion, 20 heures par semaine et environ 700 euros par mois. Ils versent 280 euros pour le gîte et le couvert.
Du coup, on a la vue sur la salle de traite. Voici les poules.
Ils sont répartis aux différents postes de la ferme. Maraîchage, élevage, fromagerie, maintenance et cuisine.
Alors par contre ici, il faut quitter les chaussures sur le tapis.
Damien est lui affecté à la fromagerie.
Donc c'est ici que tout se passe. Donc là, on a pour faire les fromages frais.
Depuis son arrivée il y a quelques semaines, celui qui a grandi à la campagne retrouve ses racines. Pour intégrer la ferme de Moyen-Brie, il a écrit une longue lettre de motivation en expliquant son projet de devenir ouvrier agricole.
Il faut faire ses preuves en prison et puis voilà, faut avoir un bon comportement et puis ça se mérite. Hein. C'est pas n'importe qui peut dire demain je viens à la ferme. Il se base aussi sur tout notre passé carcéral quoi. Ça change tout, quoi. On n'est pas en liberté parce qu'on a quand même des contraintes, mais on est libre quand même, quoi. C'est une prison à ciel ouvert, on va dire. Mais bon, 24 hectares, il y a de quoi s'amuser quand même, quoi. Il y a de quoi faire. C'est magnifique, quoi. Quand on voit le paysage qu'on a là, quand on fait tout le grand tour, ça fait 3,5 km.
Les résidences sont encadrées par 8 salariés. Un résident coûte 35 euros par jour à l'État, contre plus d'une centaine d'euros en structure fermée.
Ouais, ça va mieux, ouais.
Une fois les travaux du matin terminés, le déjeuner est pris en collectivité et chacun va ensuite à ses occupations. Rendez-vous médicaux, entretien avec la conseillère d'insertion et de probation ou encore avec Pôle emploi, avec un objectif, reprendre confiance et envie pour élaborer un projet pour l'avenir. Jean-Claude Simon, coprésident de la ferme.
Dès le départ, on leur demande de travailler leur projet de réinsertion et dès le départ, on leur demande de s'attacher à monter leur dossier administratif pour retrouver cette vie administrative qu'ils avaient perdue en prison. Parce que pour pouvoir trouver du boulot à l'extérieur, il faut déjà retrouver son compte en banque, la possibilité d'avoir un téléphone, la possibilité de repasser le permis s'il y a besoin de repasser le permis. Voilà.
Donc voilà à peu près ma chambre où je passe du temps.
Chaque résident a la clé de sa chambre. Yves va rester un an à la ferme.
J'ai mon ordinateur, j'ai Internet avec.
Yves sort de 5 années passées en prison.
Alors qu'est-ce que ça m'a fait ici ? Un grand choc de retrouver de la liberté, semi-liberté, parce que voilà, avec tous les arbres, tout, la vie, quoi, ça a été compliqué. Donc après, expliquer un grand bol d'air frais que j'ai retrouvé, mais un bien-être, on ne réalise pas. Parce qu'on n'a connu que du béton et des barbelés, et là, on retrouve des bois. Il y a quelques temps de ça en arrière, j'ai serré un arbre dans mes bras, parce que c'est un truc thérapeutique aussi. Et donc, ça m'a fait du bien. Moi, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de marcher dans la nature. La vie normale, quoi, qui revient à nous tout doucement.
Yves a aussi dû se réhabituer à vivre en collectivité. Et c'est notamment le bruit des conversations lors des repas qui lui heurtent encore l'oreille. Il faut un temps de réadaptation, selon Jean-Claude Simon.
Quand on sort d'une longue peine, il y a le phénomène qu'on appelle le phénomène de décompensation, qui fait qu'on est toujours prudent et très à l'écoute des gars sur les premières semaines, qui risquent de perdre pied de par cette semi-liberté qui leur tombe dessus d'un seul coup d'un seul. Ces responsabilités qui leur tombent dessus, parce que ici tout est basé sur le principe de confiance et chacun a une tâche à accomplir. Et puis il y a toute cette participation à la vie collective tout au long des journées qui n'est pas forcément simple.
La ferme de Moyen-Bray existe depuis 20 ans. Elle affiche un taux de réussite de 60 à 70%. Récemment, un ancien résident leur a rendu visite. Il s'est installé comme fromager en Haute-Savoie.
Pas banal. En Serbie, la plus grande centrale du pays, la prison de Sremska Mitrovica, a mis en place un plan de formation et de réinsertion assez inédit. Certains prisonniers apprennent à dresser des chiens errants. C'est une forme de zoothérapie qui a fait ses preuves. Les explications de Simon Rico.
Le meilleur programme de réinsertion au monde. Aleksandar Alimpić, le directeur de la prison de Sremska Mitrovica, ne cache pas sa fierté quand il s'agit d'évoquer ce projet lancé en 2017. L'homme était pourtant sceptique quand la ville dans le nord-ouest de la Serbie a proposé d'ouvrir un chenil à l'intérieur de sa centrale. L'administration pénitentiaire a ensuite validé cet atypique projet de réinsertion et le chenil de la prison accueille aujourd'hui environ 300 animaux. Pour l'instant, seuls les condamnés à des peines courtes et ayant une expérience avec des chiens sont éligibles au programme de 10 semaines. Une centaine de prisonniers l'ont suivi depuis 2 ans et le directeur ne cache pas son enthousiasme. Les gardiens ont constaté un développement considérable de l'empathie des prisonniers ainsi qu'une réduction significative de l'agressivité entre eux. 2 heures par jour, les stagiaires dressent les chiens des rues en leur apprenant à obéir à des ordres élémentaires. L'objectif est simple, prendre soin de ces animaux pour qu'ils s'habituent aux humains et deviennent éligibles à l'adoption. Il faut dire que les chiens sauvages sont un vrai souci en Serbie. Il serait plus de 100 000 dans le pays et les accidents sont chaque année nombreux. Pour l'administration pénitentiaire, c'est aussi un moyen de lutter contre la récidive en favorisant la réinsertion. À la fin de leur formation, les détenus reçoivent un certificat d'aptitude les qualifiant pour des emplois dans des refuges pour animaux ou des zoos. L'OSCE a remarqué le potentiel innovant de ce projet et décidé de lui accorder son soutien financier. Selon le Conseil de l'Europe, les prisons serbes sont saturées et l'on constate dans certains établissements des traitements inhumains et dégradants. Après Sremska Mitrovica, d'autres prisons devraient bientôt mettre en œuvre ce programme de réinsertion qui offre une deuxième chance aux hommes comme aux animaux.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe ainsi que sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve dès demain sur RFI.